carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi d'écouter cette émission sur Canal Académie. Il y a 500 ans, le 31 octobre 1512, le pape Jules II inaugure la nouvelle chapelle de la Sixtine et le 1er novembre, le lendemain donc, il célèbre sa première messe sous la voûte de Michel-Ange, décorée, comme on le sait, de fresques figurant la création et la chute de l'homme. Jean Delumeau et Yves-Marie Berset, tous deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évoquent pour nous l'histoire de la chapelle Sixtine, du temps des grands papes de la Renaissance et en particulier du temps de Jules II. Nous nous mettons maintenant en relation téléphonique avec Jean Delumeau, qui nous fait le plaisir, pendant quelques minutes, d'introduire cette réflexion sur l'histoire de cette illustre chapelle. Quels sont les papes et les artistes dont les noms sont attachés à la chapelle Sixtine ?
Eh bien, au cours d'une période qui s'est étendue de l'avènement de Sixte IV en 1471 au sac de Rome en 1527, la ville acquit, on peut le dire, une place de premier plan dans la civilisation de la Renaissance. Et les commandes des papes, effectivement, surent attirer dans la ville un nombre tout à fait impressionnant d'artistes. Sixte IV, pour la décoration de la chapelle qui porte son nom, la Sixtine convoqua en 1481-82, on peut dire, les meilleurs peintres toscans et ombriens, organisant un concours, entre guillemets, entre les équipes. Et alors, travaillèrent sur le chantier les Florentins Botticelli, Ghirlandaio et Rosselli et les Ombriens Perugino, Pinturicchio et Signorelli. Et bien sûr, ces noms n'épuisent pas la liste des artistes présents à Rome à l'époque de ce pape ou peu après sa mort.
D'autres papes, comme Jules II et Léon X, eux aussi ont participé.
Effectivement, Jules II puis Léon X, purs et sûrs dans l'espace de 18 ans, c'est-à-dire de 1503 à 1521, à défaut de retenir Léonard de Vinci, mais purs faire travailler à Rome deux des artistes les plus géniaux de la Renaissance, Michel-Ange et Raphaël. Et leur nom devint, on peut le dire, inséparable de celui de la Nouvelle Rome, même si, bien sûr, ils produisirent aussi des chefs-d'œuvre ailleurs. Et, précision intéressante, Raphaël avait 25 ans quand Jules II, sur recommandation de Bramante, lui demanda de peindre ses appartements du Vatican, et Michel-Ange en avait 30 lorsque le même pape l'appela à Rome en 1505, le chargeant de faire son tombeau et de décorer la voûte de la Sixtine. Alors le second avait dès avant cette date travaillé à Rome en 1496 et réalisé à Florence le David et les fresques pour le Palazzo Vecchio. Quant à Raphaël, élève du Pérugin à Urbino, il eut très tôt la réputation d'un surdoué. D'autre part, il faut le dire, la gloire venait tôt à l'époque, la gloire venait tôt aux artistes. Il reste que Jules II, puis Léon X, firent des choix que la postérité a ratifiés et qui contribuèrent grandement à la gloire de la Nouvelle Rome. Et pour la décoration du plafond de la Sixtine, salle qui était récente mais déjà abîmée notamment par l'humidité, Michel-Ange fit modifier un premier projet qui comportait la représentation des 12 apôtres et des motifs ornementaux dans les parties restantes. Et après consultation de théologiens, il proposa 9 sujets tirés de la Genèse, à commencer par la séparation de l'ombre et de la lumière et la célèbre création d'Adam. Il fit place aussi aux prophètes et aux sibylles et à des nus supportant des médaillons. Sa maîtrise de l'anatomie le choix de couleurs acidulées que les restaurations récentes ont restituées firent le succès immédiat de cette composition, on peut le dire, sans précédent.
Mille merci, Jean Delumeau, de vous être joint à nous et d'avoir participé à cet échange. Yves-Marie Bercé, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau dans notre studio.
Merci aussi pour moi, le plaisir.
Jean Delumeau nous a présenté Rome, capitale culturelle de la Renaissance italienne, dont les papes ont su rassembler les artistes les plus talentueux, pape mécène, pape guerrier parfois, du moins en ce qui concerne Jules II. Alors Yves-Marie Bercé, qui est Jules II ? Sa carrière, sa famille, et pourquoi commande-t-il la nouvelle décoration de la chapelle Sixtine ?
Alors, dans la longue élaboration pluriséculaire de la ville de Rome, le pontificat de Jules II, effectivement, joue un rôle essentiel dans la monumentalisation de cette ville qui est encore encombrée, je dirais, de constructions parasites qui ont poussé par-dessus les ruines antiques. Et après Jules II, Jules II règne donc de 1503 à 1513, après Jules II, on dit que c'est une nouvelle cité qui surgit et qui fait renaître, qui se fait se ressouvenir des fastes de la Rome impériale. Alors Jules II s'appelait le cardinal Giuliano della Rovere, il est originaire d'une très riche famille de marchands du port de Savone. Savone, c'est la principale ville de la Riviera du Ponant dans la République de Gênes. Et il a profité, dans sa jeunesse, de la fortune exceptionnelle d'un oncle, Francesco della Rovere, qui a été général des Franciscains, qui était un homme de culture et de science, et qui a accédé au pontificat en 1471. Et le pontificat de Sixte IV est déjà d'ailleurs une amorce de cette remodélisation de la cité de Rome, puisque c'est Sixte IV, c'est ce pape, le premier pape de la Rovere, de cette famille, qui va renouveler la figure du palais du Vatican en détruisant la vieille basilique du IVe siècle et puis les bâtiments qui avaient été construits par-dessus et en faisant construire à côté, sur le flanc nord du site de la basilique, la chapelle Sixtine, enfin le site de la chapelle Sixtine qui sera décoré donc plus tard par Michel-Ange, mais c'est Sixte IV qui l'a fait construire et c'est un élément, si on le regarde de l'extérieur, de fortification. Elle est encore coiffée d'un chemin de ronde qui court sur le toit. Et ensuite, après Sixte IV, on a un peu plus tard le pontificat d'Alexandre VI Borgia qui fait construire des appartements au-delà de, je dirais, de la cour entre la chapelle Sixtine et les appartements Borgia. Il y a des petites cours, la cour du Perroquet, et puis plus loin, les très grandes cours du Belvédère, qui est encore la plus grande cour du Palais du Vatican. Eh bien, là, les appartements Borgia se trouvent entre ces deux cours et ont un aspect fortifié de l'extérieur. On est vraiment encore dans un Vatican qui est aux limites de la ville de Rome et qui a l'aspect d'une forteresse.
Et cette chapelle s'appelait la Cappella Magna, mais elle était déjà destinée réunions de la cour pontificale.
Oui, rôle qu'elle va jouer à travers les siècles encore aujourd'hui. Et elle a une très grande ampleur puisque je crois qu'elle mesure 13 mètres en largeur et je ne sais plus combien, 50 mètres en longueur, au moins 20 mètres de hauteur. Donc c'est un très grand vaisseau qui permet d'assembler, effectivement, de tenir des conclaves, des réunions de nombreux cardinaux et prélats. Je reviens à la famille della Rovere. Avec l'accession de son oncle au pontificat, Giuliano della Rovere, qui est un jeune franciscain lui-même, qui a fait des études de droit à l'université de Pérouse, va immédiatement recevoir une pluie d'honneurs dans la tradition du népotisme, qui est une institution logique dans la société de ce temps. Il faut que le pape ait autour de lui l'appui d'une famille de parents auxquels il puisse faire entièrement confiance et qui vont détenir des fonctions de responsabilité, de finances, de moyens, de pouvoir pour lui permettre de conduire la politique temporelle de l'État pontifical, de la papauté. Donc, dans ce cadre donc, du népotisme traditionnel, dès cette année 1471, Giuliano est promu évêque de Carpentras, puis bientôt cardinal.
Enfin, cardinal neveu.
Il va cumuler les charges épiscopales, Bologne, plus tard Avignon,
il va en France aussi.
Coutances, également de nombreuses abbayes également, au point que à la fin du pontificat de Sixte IV, la fortune du cardinal della Rovere est, on estime en moyen, en extension de fortune, la troisième dans le rang de la cour pontificale. Après les Sforza et après les Borgia. Voilà donc cette puissance de ce personnage. Alors, il faut revenir aussi sur sa personnalité. Je me sers là beaucoup du livre de mon ami Yvan Cloulas, qui a fait une biographie parue vers 2000, je crois, environ, de Jules II. Et Yvan Cloulas dit que Jules II était un géant au physique et au caractère. On l'appelait d'ailleurs le pape terrible. C'est un personnage donc très grand et fort, encore jeune, volontaire, intelligent, coléreux, violent, ambitieux, et qui est parfaitement, si vous voulez, maître de lui-même et surtout convaincu d'un projet politique précis qui est l'affirmation territoriale de l'assise de l'État pontifical à l'intérieur de l'Italie centrale, de manière à donner à la puissance, à son autorité spirituelle, tout l'environnement, si vous voulez, l'indépendance militaire, économique, qui lui permet de parler sans timidité avec les couronnes de France, d'Espagne ou de l'Empire.
Donc il va engager des batailles contre Venise, contre la France, il voudra récupérer la Romagne que les Borgia avaient, César Borgia.
Alors voilà, celle-là, on anticipe déjà, si vous voulez, sur ce qu'il va faire pendant son pontificat. Mais on peut dire qu'avant d'accéder, lorsqu'il est encore cardinal, sous le pontificat d'Innocent VIII, puis d'Alexandre VI Borgia, il est chargé de missions diplomatiques, notamment il est légat à la cour de France, et il va suivre la cour de France et lier même ses intérêts immédiats à la politique française. Lorsque Charles VIII, pour la première incursion des Français au-delà des Alpes, en 1494, traverse victorieusement la Lombardie, l'Italie centrale pour la conquête de Naples, le cardinal Giuliano della Rovere chevauche à ses côtés et entre triomphalement avec lui dans Rome le 31 décembre 1494. Donc il y a là une capacité de gestion de ses intérêts propres et puis de la diplomatie pontificale qui révèle une maîtrise, si vous voulez, exceptionnelle.
Il faut dire aussi que c'était un ennemi des Borgia.
Alors, pendant le pontificat des Borgia, enfin de Alexandre VI Borgia, qui est Rodrigo Borgia, qui est un cardinal espagnol, effectivement, ayant été associé au parti français, il est en disgrâce. Il est à ce moment-là retiré et fortifié dans son château d'Ostie, puisqu'il possède également l'évêché d'Ostie, un petit château qu'il a fait construire par San Gallo, château dont il existe encore plus que des ruines, enfin des éléments assez importants, que tous les voyageurs peuvent apercevoir quand ils sortent de l'aéroport de Fiumicino et qu'ils se dirigent vers Rome. On laisse sur la droite le château du pape Jules, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle. Alors ça, c'est pendant le pontificat d'Alexandre VI Borgia. Et à l'été 1503, le pape Borgia vient à mourir. Son fils, César Borgia, et alors au fait de sa puissance militaire. Et il est en train de réussir, semble-t-il, à construire une souveraineté personnelle en Romagne. Il faut dire que dans l'ensemble des territoires de l'Italie du Nord et de l'Italie centrale, il y a une multitude d'États-cités, de petites villes qui ont chacune leur contado, leur territoire, avec à la tête des oligarchies qui peuvent dépendre en droit féodal de l'empereur ou bien du pape, et qui cherche à acquérir une souveraineté propre qui soit indiscutable. Et il est encore possible, au XVe, au XVIe et même au début du XVIIe siècle, de constituer des États souverains. C'est ce qui arrivera, par exemple, avec les Farnèses, avec le duché de Parme et Plaisance, avec les Estes, avec le duché de Modène. Et César Borgia, donc, peut réussir à construire un État temporel où il espère fonder une dynastie dans les villes de Romagne, c'est-à-dire autour du pays de Ferrare, dans les approches du delta du Pô. Et or, cette province de Romagne fait partie du territoire, enfin, de la dépendance pontificale. Et l'intérêt, bien sûr, de l'État pontifical, c'est d'empêcher cette construction de cette nouvelle dynastie. Or, Giuliano della Rovere va faire tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas, dans l'immédiat, se faire élire dans le conclave qui suit la mort d'Alexandre VI.
Il y a Pie III.
Et c'est un vieux prélat, Piccolomini, c'est la famille de
comme
Sienne.
Comme Pie II, c'est la même famille que
Pie II. Qui est mort en 1464. Et ce brave Pie III va simplement régner pendant un peu plus d'un mois. Et il meurt le 18 octobre. Et alors, à ce moment-là, la situation du conclave s'est renversée. Là, on s'est habitué, les prélats italiens, pour donner une idée tout de même de ce que peut être un conclave à cette époque. Je crois qu'il n'y a pas 40 prélats, hein. Il y en a 37 exactement. Et là-dessus, il y en a 21 ou 22 qui sont italiens. Alors, ceux qui sont du côté, je veux dire, du côté français de la couronne de France, il y a le cardinal d'Amboise, par exemple, qui aimerait bien être pape, mais il n'a pas de chance. Et les Espagnols, de leur côté, ont une faction, mais ils ont déjà joué, si on peut dire.
Oui.
Donc, l'influence de Giuliano della Rovere, qui paraissait menaçante à l'été, devient au contraire évidente après la mort à l'automne. Voilà. Et le 1er novembre 1503, au premier tour de scrutin, il est effectivement élu.
Élu 37 sur 38.
Ah bon, voilà, alors je
ne
connaissais
pas voté pour lui.
Le score.
C'est,
voilà. C'est une grande élégance de sa part qui peut surprendre. Et immédiatement, on comprend que ce personnage, il va avoir 60 ans.
Oui, c'est rien.
C'est un personnage
pour un pape.
Mais il y a 32 ans qu'il est cardinal, puisqu'il a été tout jeune.
Mais je crois qu'il est un petit peu mal portant. Il a la goutte. Parce
alors,
que d'abord,
bien, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il aimait la bonne chair, la bonne vie, qu'il n'a jamais, je dirais, eu une perspective de restriction. Et on sait aussi qu'il a.
Il a des enfants.
Il a une fille. Felicia Orsini, qui a épousé un prince Orsini, qui tient sa maison, qui va effectivement le servir en quelque sorte de gouvernante, comme il y a des cardinaux-neveux. Il y a aussi, souvent dans les pontificats, une femme qui peut être une nièce, là en l'occurrence, c'est une fille, mais une femme qui est une personne de confiance à qui souvent, par exemple, on voit s'adresser les suppliques, les placés de pauvres gens, de gens qui sont dans le malheur. Ils vont, plutôt que s'adresser directement au pape, ils vont essayer de passer par une personne féminine, charitable, qui va les
aider.
Fais-moi
peur.
Voilà. Alors, c'est le rôle de Felice Orsini. Alors, ce qu'on sait, c'est que très vite, le pape Jules II va avoir trois perspectives. Il faut d'abord souder les puissances catholiques en face de l'expansion ottomane dans les Balkans et en Méditerranée. Alors, on parle souvent d'esprit de croisade, mais ce qui nous renverrait à une sorte de projet archaïque. Mais il ne s'agit pas de reconquête de Terre Sainte, il s'agit d'un problème géostratégique immédiat qui va durer deux ou trois siècles, qui est la résistance à l'expansion ottomane dans les Balkans, en Europe centrale et en Méditerranée. Et donc ça, c'est un premier problème, effectivement, militaire et politique. Ensuite, il souhaite réunir un concile. Il y a une volonté, un besoin de réforme évident dans l'ensemble de l'Église. Et il s'engage à réunir un concile. Et d'autre part, il souhaite affirmer la puissance temporelle de l'État pontifical. Il en donne la preuve immédiatement en faisant arrêter et chasser César Borgia. Dans la mesure où le projet de Borgia en Romagne aurait pu d'abord diminuer l'extension territoriale de l'État ecclésiastique et représenter une menace pour les Vénitiens qui auraient trouvé une raison d'hostilité et de renouvellement donc des prises d'armes. Donc pour toutes ces raisons, il va faire emprisonner et expulser César Borgia. Ce qu'on peut trouver remarquable là, puisqu'il s'agit donc des projets artistiques, des réalisations oui. monumentales de Jules II, c'est que 2 ans après, dès 1505, il a déjà en tête
de faire reconstruire la basilique.
Un très grand nombre de projets voilà, architecturaux. Et le premier, alors on en vient là, si vous voulez, à ces ambitions artistiques et monumentales. Le premier objectif, c'est la reconstruction totale de l'édifice de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il y avait là un édifice qui était du 8e ou 9e siècle, avec donc les accroissements médiévaux, que l'on va renverser, puisque en quelques mois, et l'architecte...
C'est Bramante.
Qui est Bramante. Bramante est né en 1444, dans un village à côté d'Urbino, du duché d'Urbain. Je reviendrai là sur le problème du duché d'Urbain. C'était un pôle, oui. C'est un lieu, si vous voulez, qui est riche en génie, en virtualité étonnante, intellectuelle, artistique et militaire. Et Bramante, il y a déjà un certain âge, et il a travaillé surtout en Lombardie, où il était au service des Sforza. Mais Louis XII, enfin Charles VIII, puis Louis XII, ont abattu la puissance des Sforza, et après 25 ans de travaux en Lombardie, dans l'ombre des Sforza, Bramante a cherché refuge à Rome. Et il avait déjà travaillé, et il s'était fait remarquer, notamment par le portique du cloître de Santa Maria della Pace, qui est entre la place Navone et le Tibre, aujourd'hui c'est l'église de la nation allemande, et ce portique dont on dit qu'il reprend des mesures antiques, latines, romaines, mais avec une sobriété et puis,
classicisme,
un renouvellement architectonique, va attirer l'attention. Il est également mêlé à un très grand nombre d'entreprises de fouilles dans le Palatin, dans l'Esquilin, où on trouve des merveilles archéologiques.
C'est lui qui a appelé le ruineux.
En 1506. Ah oui, alors, pardon, il y a deux choses à la fois.
Oui.
On l'appelle Mastro Ruinante, le ruineux, si vous voulez, parce que son premier travail à Saint-Pierre, c'est de déblayer les bâtiments précédents. Mais aussi, alors, c'est une sorte d'attachement aux ruines. Il s'est intéressé aux pièces archéologiques qu'on peut eximer de la Rome ancienne. Et en 1506, on a trouvé le Laocoon, qui est la statue de Laocoon, un marbre grec où on voit Laocoon, si vous voulez, et ses enfants assaillis par Laocoon avait recommandé aux Troyens de rejeter le prestige du cheval de bois de Troie. Et pour l'empêcher de défendre Troie, Athéna avait suscité des serpents qui étaient sortis de la mer et qui avaient étouffé lui et ses enfants. Donc on retrouve cette extraordinaire statue en 1506, à l'emplacement à peu près de la maison de Néron. Et on va le transporter au pavillon du Belvédère. Enfin, c'est Bramante qui installe le Laocoon au pavillon du Belvédère, où il habitait d'ailleurs. Et ce Laocoon, il y est encore. Et alors, il y a une passion archéologique que partage Jules II, qui avait collectionné en tant que...
Oui, parce que c'était aussi un intellectuel.
Oui, puisqu'il avait été diplômé, effectivement, de l'université de Pérouse. Et il s'intéresse donc aux antiquités. Et ces collections vont donc être arrangées dans les pavillons du Belvédère par Bramante. Et puis, alors, très vite, après l'opération de dégagement des bâtiments antérieurs, Bramante lance le plan d'un nouvel basilique qui devra la forme d'une croix grecque avec une immense coupole centrale et 4 petites coupoles mineures aux angles. En fait, le projet sera modifié de nombreuses fois. Et ce qui est intéressant de constater a posteriori, c'est que en fait, des dizaines d'architectes ont travaillé ensuite et que beaucoup de ces projets qui étaient lancés là pendant le pontificat de Jules II
n'ont pas abouti.
Si, mais ils ont abouti sur un ou deux siècles.
Oui, parce qu'il y a eu
ce qu'ils lançaient là ont entraîné ensuite des travaux pendant deux siècles. On sait que déjà, en 1509-1510, il y a 1500 ouvriers qui travaillent sur le chantier de Saint-Pierre, c'est-à-dire une entreprise énorme pour l'époque, on compare à une armée. Et lorsque Jules II meurt, il y a déjà les quatre piliers qui doivent supporter la coupole centrale qui sont achevés. Et on peut, dans des enclos bâchés, célébrer des messes.
Il est mort en 1513.
Il est mort en février 1513, voilà. Oui. Voilà, Bramante, venant d'Urbain, c'est lui qui a recommandé un jeune artiste, beaucoup plus, d'une génération bien différente, Raphaël Sanzio, ou Santi, né lui aussi à Urbain en 1483.
Tout jeune et peintre.
Et donc, il avait travaillé à Florence, mais lorsque Bramante le recommande à Jules II et que Jules II le fait venir à Rome, il a 25 ans, ce qui est, enfin, pour un génie, c'est peut-être déjà âgé, mais enfin, pour quelqu'un qui va immédiatement être chargé de commandes somptuaires extraordinaires, c'est effectivement tout à fait remarquable. Il va recevoir de Jules II la commande de la décoration des appartements que, où Jules II désire désormais résider, au-dessus des appartements Borgia, où il avait habité au début de son pontificat. Donc à partir de 1507-1508, c'est Raphaël qui va décorer les trois grandes pièces qui sont en enfilade, qu'on appelle les chambres de la Stanze di Raphaël, très célèbres, qui sont donc la chambre dite de la signature, parce que c'était là que c'est au fond un élément de bureau fonctionnel. C'est là qu'on scellait les actes pontificaux.
C'est là aussi qu'il y a l'école d'Athènes.
Voilà.
Et puis la religion chrétienne.
Alors ensuite, il y a la chambre d'Héliodore, où il y a une scène fameuse où ce personnage qui était un trésorier d'un roi assyrien qui avait pillé le temple de Jérusalem, qui est abattu par les anges, et dans un angle du tableau, Raphaël a situé Jules II sur la sedia gestatoria, alors un peu vieilli, il s'est d'ailleurs à ce moment-là fait pousser la barbe comme un turc, on disait à l'époque, il a cette espèce de capuchon de fourrure. Vasari, qui le vit un peu plus tard et qui écrit dans les années 1550 les vies des architectes, peintres et sculpteurs les plus fameux, dit que c'est un portrait qui est parfaitement ressemblant. Enfin, Vasari n'avait pas pu voir Jules II, mais enfin, il le dit sans doute par la mémoire
de
notre personnage.
Voilà. Les gens pouvaient
et puis alors, ça, il y a donc la pièce de Liodore, et puis ensuite, la troisième, c'est la Stanza dell'Incendio, qui représente l'incendie du Borgo au IXe siècle, je crois. Enfin, bon, je ne vais pas faire le programme artistique. Oui. Il s'agit là de montrer l'extraordinaire réunion
de talents,
de génie extraordinaire, avec les mêmes chantiers, les mêmes bâtiments. Alors, j'en viens bien sûr à Michel-Ange. Michel-Ange, lui, est né en 1475 dans un village près d'Arezzo, c'est-à-dire en Toscane, mais c'est aux confins, véritablement, du duché d'Urbain. Il y a juste, combien, je ne sais pas, 30 kilomètres entre... mettons 100 kilomètres, alors, entre Urbain et Arezzo, mais enfin, très peu, je ne sais plus exactement. Mais enfin, c'est assez montueux entre les deux, mais enfin, c'est très voisin. Et il est appelé à Rome dès 1505, mais il y a là, je crois, une sorte de malentendu. Il s'était fait connaître comme sculpteur, on peut le dire pour l'ensemble de ses artistes. Ils sont à la fois peintres, sculpteurs ou architectes. Et il s'était fait connaître par la statue du David, dont a parlé Jean Delumeau, érigée en 1501 dans la place de la Signorie à Florence, où elle symbolise la liberté de la cité contre la tyrannie des Médicis. Or, passons, si vous voulez, sur les épisodes politiques. Oui. Il est assez célèbre pour que Jules II lui commande un projet de tombeau, qui confirme, si vous voulez, l'idée de sa gloire, d'exaltation de sa personne qu'envisage ce pape. Mais il y a une suite de malentendus, puisque, en fait, très vite, Jules II voudrait le faire travailler à des fresques de décoration de la Sixtine.
C'est là où il dit « je ne suis pas peintre ».
Voilà, et c'est seulement en 1508 après avoir consacré d'ailleurs tout de même un certain temps à une statue de Jules II assis, qui a déclaré éphémèrement l'entrée de l'église San Petronio à Bologne.
Mais elle n'a pas resté, oui, parce
elle a été détruite en 1511. Donc, après cet épisode de sculpture, c'est en 1508 qu'il se résigne, si on peut dire, à obéir à Jules II et entreprendre, en mai 1508 exactement, les travaux de la Sixtine. Alors, ce qu'on peut dire là au passage, c'est que entre 1508 et 1512-1513, on a Bramante, Raphaël, Michel-Ange qui travaillent côte à côte, si l'on peut dire, avec des équipes nombreuses, des moyens considérables. Alors que la politique de Jules II subit là des inflexions, des vicissitudes. Alors, on peut peut-être dire quelques mots là, revenir aux aspects temporels et politiques de l'Italie centrale. J'ai dit que Jules II souhaitait affirmer l'emprise pontificale dans l'ensemble de l'Italie centrale. Or, il y a deux puissances montantes qui risquent d'offusquer, si vous voulez, ses projets. C'est d'une part la très ancienne République de Venise, qui est en concurrence pour la possession des terres d'Émilie et de Romagne, c'est-à-dire du delta du Po, avec les salines de Ravenne et Comacchio. Le sel a une importance considérable à l'époque. Donc il y a la rivalité avec Venise, et puis l'ambition du roi de France, qui poursuit le projet de restaurer les droits des rois
sur
de France.
Sur le Milanais et sur le
royaume de Naples.
Et sur le royaume de Naples.
Dans la succession des rois angevins contre les Aragonais. Alors, en 1510, les projets de Jules II traversent une passe terrible parce que sa campagne militaire en Émilie-Romagne a été extrêmement dangereuse, l'a fatigué. On cite son courage, son obstination au siège de la place de la Mirandole, la Mirandola, qui est un tout petit territoire souverain dans la plaine du Po, qui était la famille Pico de la Mirandola, Pic de la Mirandole, qui était allié du roi de France. Et en janvier 1513, Jules II mène lui-même le siège victorieux de la place de la Mirandole. Mais ensuite, revenant vers Rome, il apprend successivement la reprise à Bologne du pouvoir des Bentivoglio, la famille oligarchique qui dominait jusque-là l'État-cité de Bologne, et l'avancée, si vous voulez, des Français, l'affirmation, si vous voulez, du pouvoir militaire des Français. Louis XII entend contrarier, concurrencer le pouvoir spirituel de Jules II sur l'Église universelle en réunissant un concile qui va développer le thème déjà développé au Concile de Bâle 50 ans plus tôt, de la suprématie du Concile œcuménique sur l'autorité du pape.
Et ce qui n'est pas très gracieux pour le pape.
Ce concile schismatique doit se réunir à Pise au cours de l'automne 1512, Louis XII l'a annoncé.
Donc il y a une antinomie entre Louis XII et Jules II.
Tout à fait. Et les Français ont remporté une victoire militaire, mais qui est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, en avril 1512 à Ravenne, où c'est une bataille qui est une des plus sanglantes des rencontres de cette époque des guerres d'Italie, puisqu'on dit qu'il y a un peu plus de 10 000 morts, ce qui est tout de même tout à fait exceptionnel. Alors les Français, semble-t-il, ont le dessus, mais leur général, Gaston de Foix, est tué dans la bataille. Et son successeur n'a pas la même, je dirais, capacité stratégique. Il est célèbre par ailleurs, puisque c'est le célèbre Lapalisse, mais qui est amené, lui, faute d'approvisionnement. Alors, c'est quelque chose facile à expliquer, c'est-à-dire comment la retraite française va succéder à une victoire. Ce sont des vicissitudes qu'on rencontre constamment dans ces guerres du XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir une armée sur pied pendant plusieurs mois d'affilée, parce que très vite, les fièvres, le manque de paye, le défaut d'approvisionnement entraînent la désertion, la dissémination des soldats. Donc, après le succès de Ravenne, les Français sont en fait amenés à se retirer en Lombardie et même à repasser les Alpes, faute d'approvisionnement. Ensuite, ce concile schismatique prévu par Louis XII ne réunit à Pise, quand il se matérialise en octobre 1512, que quatre prélats français, quelques évêques, alors que, justement, la riposte est prévue par Jules II, qui, lui, de son côté, a appelé un autre concile œcuménique qui est orthodoxe et qui va se réunir au Latran au printemps 1512. Et alors, on a ces deux conciles. Le concile français part d'abord à Pise, ne réunit qu'un nombre ridicule de prélats. Il se heurte à l'hostilité de la population. On le transporte ensuite à Asti et puis même à Lyon, au-delà des Alpes. Et quelques prélats se dispersent sans avoir pris de conclusion. Et c'est le concile de Latran, organisé par Jules II, qui réunit une trentaine de cardinaux et qui prononce effectivement la condamnation de ce schisme dans l'Église. Et de sorte qu'on a là un retournement de situation qui peut nous paraître difficile à comprendre quand on, parce qu'on compare les dates des événements, on s'aperçoit que c'est en l'espace de quelques mois que la fortune change de sens.
Que les alliances changent aussi.
Voilà, mais je crois que ça fait partie des conditions matérielles et même politiques du temps, où il y a une sorte
mouvant,
de difficulté à maintenir constamment une force armée et une capacité diplomatique. Il y a juste deux points encore sur le pouvoir temporel de Jules II qui signifie son succès. C'est d'une part, il a en 1508 conclu une alliance militaire avec les cantons suisses par l'intermédiaire de l'évêque du Valais, Matthias Skinner. Le Valais est une principauté épiscopale qui est alliée des cantons suisses, qui ne fait pas partie des 12 cantons. Mais les cantons suisses offrent une alliance de longue durée et c'est de cette date, 1508, que l'on fait partir la permanence de garde suisse au service du Vatican. Et cette même année 1508 est mort le dernier duc d'Urbino de la famille des Montefeltre. Et il se trouve que Sixte IV avait réussi à faire épouser à un de ses neveux, Giovanni, une Giovanna di Montefeltre, qui était la fille du dernier duc d'Urbino de la branche des Montefeltre. De sorte que la couronne ducale d'Urbino passe dans la famille de la Rovere. Et en 1508, après la mort de Federico di Montefeltre, c'est Federico Maria de la Rovere, neveu de Jules II, qui devient duc d'Urbain. Et la principauté d'Urbain, qui est sur le bord de l'Adriatique, a deux ports très bien achalandés, qui ont des foires, qui sont Pesaro et Senigallia. Et puis, cette petite capitale d'Urbain, un peu dans l'arpérie, dans la montagne, qui a réuni des humanistes, des poètes, des peintres. C'est un territoire qui est vassal du Saint-Siège, mais qui a une apparence
d'autonomie.
De souveraineté, d'autonomie. Alors, pas de souveraineté, d'autonomie, et qui tient à sa capacité à réunir des troupes de jeunes montagnards dans cette ancienne société rurale, les jeunes gens des villages au perché, soit ils font la transhumance des moutons, soit ils sont chaudronniers, soit ils sont charbonniers. Chez Durbain, ils sont soldats et ils louent leur service comme les Suisses. Alors le duché d'Urbain est un château d'eau de soldats comme les hautes vallées des cantons suisses. Et c'est ce qui explique la fortune politique de ce duché qui est désormais allié de la famille de la Rovere.
Alors, la Sixtine, avec notre Michel-Ange.
Alors, Michel-Ange donc a travaillé à partir de mai 1508. On sait qu'il y avait certainement des travaux préparatifs, d'abord pour préparer les enduits des murs, pour les rendre aptes à recevoir les fresques.
Et puis je crois qu'il y avait une fissure qui était dans l'ancienne chapelle de Sixtine en raison des travaux justement dans la nouvelle basilique.
Donc ce qui explique qu'il faut quelques mois de préparation et puis de dessin, de conception, puisqu'il s'agit de couvrir, je ne sais plus quelle est la superficie, quelque chose comme 500 mètres carrés. et sur lesquels, qui sont sur la voûte, les murs latéraux ont été décorés déjà sous Sixte IV par des peintres qui sont tout de même Pinturicchio, Luca Signorelli,
Ghirlandaio, etc.
Ghirlandaio, Botticelli, Della Gatta, enfin tout un tas de peintres d'Ombri ou de Toscane ou des Marches. Et ça, c'est les murs latéraux. Ce que doit faire Michel-Ange, c'est la voûte. Il y a des échafaudages. Il va y travailler les années 1509 et 1510 constamment. Et, détail rapporté par Vasari, il y attrape un torticolis qui va l'accompagner pendant toute sa vie parce que le fait, il peignait couché, à la tête renversée. Et il y a passé donc 2 ou 3 ans dans cette position qui, alors, bien sûr, n'explique pas, si vous voulez, le travail du génie, mais il y a cet extraordinaire transfert des dessins à la voûte et aux dimensions herculéennes des personnages qui sont bien sûr, je ne sais pas quel adjectif il faut trouver, époustouflants, ébouriffants, enfin, mais bon, qui font que, à travers les siècles, jamais le prestige n'en a été entamé.
Oui. Donc, la voûte de la chapelle Sixtine fête ses 500 ans. Est-ce que vous savez s'il va y avoir un office particulier, si le pape va faire un anniversaire?
J'imagine, mais ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous savez, ces fresques ont été restaurées dans les années... On a commencé dans la fin des années 1580, je crois, et jusqu'en 1593, on a travaillé. Et avec une restitution, là, des couleurs, avec le terme strident qu'employait Jean Delumeau tout à l'heure, qui correspond, je crois, effectivement à une vivacité qui surprend, enfin que des puristes ont pu juger surprenante.
On n'est pas forcément habitué à ces coloris-là, étant donné que les âges faisant, la patine s'était installée. Donc on a redécouvert des couleurs brillantes,
certainement,
vivantes.
C'est le fait, ça, de l'ensemble. Enfin, c'est une réflexion qu'on peut appliquer à l'ensemble des monuments anciens du Moyen-Âge, où toutes les sculptures étaient peintes. Peut-être, avant de terminer, ça veut dire que lorsqu'il meurt en février 1513, Jules II laisse, d'une part, des succès temporels incontestables, et puis, puisqu'on avait commencé là-dessus, une transformation de la ville de Rome. On lui donne, bien sûr, le mérite d'avoir construit 2 grands axes de circulation qui sont dessinés de façon rectiligne à travers la masse des constructions parasites médiévales de chaque côté du Tibre, la Via Giulia sur la rive gauche et sur la rive droite, au pied du Janicule, la Lungara. Et ces 2 axes vont attirer des demeures, des résidences nobiliaires et puis permettre une sorte de respiration, de circulation dans une cité qui a déjà plus de 100 000 habitants.
Oui, c'était un projet urbanistique dans tous les domaines, circulation, esthétique, histoire, art.
Voilà, et c'est... Alors, Jules II meurt avant que la basilique, bien sûr, soit achevée. Ça, c'est... Et puis, il faudra 200 ans. Mais avant que les chambres, les stanze di Raffaello soient achevées...
Et Léon X continue.
Il terminera qu'en 1519.
Parce que c'est un Médicis.
Donc,
ça.
Voilà, Léon X, Médicis... Et plus tard, il y a Adrien VI, puis de la Clément VII Médicis. Les 2 grands papes Médicis vont l'un et l'autre mettre les moyens considérables et la même ambition dans la continuation des projets de Jules II.
Il fallait quand même beaucoup d'argent, donc c'était les indulgences. Et on dit aussi, parce que c'est aussi à la base tout ça, de la réforme des protestants.
Alors,
et de Luther.
Il est certain que la splendeur, la magnificence temporelle de l'État ecclésiastique peut choquer et choque, mais on sait qu'il y a, aux yeux de plusieurs des papes du 15e et début du 16e siècle, la volonté de réunir les conciles et une volonté de réformation. Alors, ils seront pris par le temps, si on peut dire, et ils n'y parviendront pas, mais cette idée de réformation est déjà présente à l'intérieur aussi de la cour pontificale. Alors le contraste entre la splendeur monumentale et puis les besoins, si vous voulez, je dirais de l'ensemble de la population, ne sont peut-être pas aussi extrêmes dans la mesure où l'Italie centrale a, dans ses décennies du début du XVIe siècle, est un pays de bonnes récoltes de blé dans le Latium, dans les Marches, qui s'enrichit avec les mines d'alun de la Tolfa. Il y a un centre financier à Rome. Je crois que l'idée d'une sorte de financement des pouvoirs pontificaux par les revenus de l'Italie centrale n'est pas fausse. Et il y a une assise territoriale là qui sert à la splendeur de Rome.
Toutes les régions se complétaient autour
de Rome. C'est-à-dire que l'ensemble de l'État pontifical a une cohérence et il réunit le Latium, l'Ombrie, les Marches, l'Émilie et la Romagne, c'est-à-dire qu'il barre entièrement l'Italie centrale, et il y a une double façade maritime, des terres qui sont prospères selon les conceptions de l'époque, des cités peuplées anciennes. Donc je crois que là, il y a effectivement des chances temporelles de la papauté.
Merci beaucoup Yves-Marie Berset, et à une autre fois, j'espère.
Oui, bien sûr.